Donc j'ai essayé de tenir compte de ça. Le... On va parler quand même de la société de l'information, qui est tout à fait mondiale depuis quelques années, de la situation à Nantes, où on connaît une certaine effervescence des médias, mais aussi une certaine morosité sur les... le plan économique. Et on va... Alors après, moi j'ai compris que mon rôle, c'était un peu de vous donner mes intuitions et qu'ensuite vous en empariez pour essayer de définir un projet ou de soutenir des projets. Ou pas. Et pour moi, l'avenir est au collectif, au partage, mais on verra ça après. Donc là, je commence par une citation, c'est toujours intéressant. Francis Ball, c'est un... président des rencontres médias et proximité qui se déroulait à Biarritz pendant 2 ans en 2006-2007, professeur à SAS, spécialiste des médias, on l'a vu évoluer en 2005-2006-2007. On n'est pas face à une évolution des médias mais bien une révolution. C'est pas un effet de mode mais une lame de fond, un séisme. On en voit seulement les premiers soubresauts. Ce mouvement ne va pas s'arrêter, il s'est beaucoup accéléré dans l'année écoulée. La mondialisation de l'économie en est l'un des moteurs. Donc lui qui était quand même un peu mesuré, tout d'un coup là il s'est dit on est vraiment face à une révolution, on sait pas comment ça va finir. Bon là, c'est parce que j'ai déjà eu l'occasion, grâce à l'invitation du président Réjean, de venir présenter un tableau qui était un peu intuitif, qui date de 2004. Voilà, c'est une sorte de télévision ou d'écran d'ordinateur, on savait pas trop à l'époque. Ça date même de 2000. Et on avait sur ce portail, je ne sais pas si je peux aller avec la souris, on a donc l'écran et des services de chaîne de télévision nationale, mais on a aussi un portail nantais avec une charte Nantes dans lequel on retrouve des contenus qui peuvent être des, le web des jeunes, donc blog, vidéo blog, podcast, wiki, c'était juste le démarrage. On peut avoir des contenus du service public, comme la, là on avait cité la CUNE, j'arrive pas à jouer avec ça. Ce qu'elle est rendue. Nantes, la communauté urbaine qui s'appelait pas encore Nantes Métropole, excusez-moi pour les puristes, mais aussi des services comme ceux de la Poste, la CAF, enfin bref, qui peut, les gens pouvaient aller chercher des informations là-dessus. On avait l'info des services de communiquer, des infoservices genre quel est l'état du pont de Cheviré, quelle est la météo. Les mails, bien sûr, étaient disponibles sur ce même outil écran. Les télévisions locales. Télé Nantes, Nantes 7, M6, France 3. M6 a disparu depuis. C'est un Nantes, c'est là aussi un endroit où on pouvait trouver les contenus venant de différents acteurs comme Pile, Pulso, et qui pouvaient nous donner l'actualité culturelle à Nantes. Et un centre d'appel dans lequel on pouvait imaginer, une fois qu'on avait bien galéré, se retrouver avec une webcam en direct avec la personne qui est chargée de répondre aux questions et qui pouvait nous donner le chemin. Donc voilà, c'était une intuition. Et en fait, ce petit schéma... se confirme d'année en année, on n'aura pas une économie comme ça, mais on va quand même être dans une sorte de convergence et à la fois de divergence, c'est ce que je vais essayer d'expliquer. Si je passe autant de temps sur chaque vignette, on est là jusqu'à demain. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans ? Ou 3 ans ? La dernière fois que je suis venu, je crois que c'était il y a 2 ans, en octobre 2006 ou 2007. Il y a eu le développement du Web 2, bon le Web 2 vous voyez ce que c'est. C'est la suite logique du mouvement des blogs. Le blog, c'est vraiment 2005, l'explosion des blogs. Et ça a été suivi par l'explosion des sites communautaires, comme MySpace, YouTube, Dailymotion. Ça, c'est... comme MySpace d'abord, et les sites d'échange de vidéos comme Dailymotion ou YouTube, qui sont, eux, ont explosé en 2007. Je crois que c'était l'année des présidentielles. Et on avait la Ségosphère, on avait Sarkozy TV. Il y a eu des millions de vidéos qui ont été vues cette année-là. Et ça a enchaîné en 2008 par l'explosion des réseaux sociaux. Donc on a bien quand même un système qui se développe à grande vitesse, qui est mondial, qui est partagé par tout le monde, et qui peut amener effectivement une révolution. Donc Wikipédia, tout le monde connaît Wikipédia, apparaît comme une superstar. Est-ce que c'est la victoire de l'intelligence collective ou le triomphe de l'amateurisme ? C'est encore un peu tôt pour le dire. Qu'est-ce qui change ? Il y a 3 facteurs de changement qui agissent de plus en plus vite. La multiplication et la diversification des réseaux, le fait qu'on peut télécharger, maintenant un film se télécharge en 6 minutes, même après, presque avant qu'il soit sorti. La multiplication des terminaux avec des écrans de plus en plus nombreux, de plus en plus divers. On avait le cinéma, la télé, maintenant on a les ordinateurs, les consoles de jeux, le téléphone portable. Les consoles de jeux, c'est pas rien. L'industrie des consoles de jeux a dépassé l'industrie du cinéma dans le monde. Tous les contenus sont numérisables. Donc on peut faire circuler n'importe quel contenu sur n'importe quel réseau dans le monde instantanément. C'est quand même aussi quelque chose d'assez extraordinaire. Et bien sûr, comme dit le professeur de Ball, Francis Ball, c'est la mondialisation qui fait marcher à force d'être promoteur. Est-ce qu'on doit parler pour autant de convergence? Alors, c'est vrai qu'Internet est l'héritière de l'alliance des médias, de l'informatique et des télécommunications. Moi, je considère que la convergence est un mot qui induit en erreur. Il faudrait mieux parler de divergence, tellement les modes de distribution, de consommation, de financement sont de plus en plus nombreux. C'est plutôt la diversité des modèles économiques qui émerge, sans toutefois trouver d'équilibre forcément. Il y a une divergence des usages. On est, pour Internet, plutôt dans une nucléarisation des sites que dans un truc convergent, pour moi. Et un autre pouvoir est en train de naître, ça c'est pas innocent, c'est les éditeurs historiques de l'info, les grands médias perdent de leur pouvoir, ils perdent de leur influence. On est à une époque où les médias peuvent être pilotés par les usagers eux-mêmes. Des masses médias, on passe à l'ère des médias des masses ou des médias individuels. C'est ce que De René appelle la revanche du prolétariat. Lui, il a sauté dessus tout de suite, il a monté Aguaravox. Aguaravox fait des scores, ils ont 1 million de pages vues par mois, enfin, et c'est devenu presque rentable. Donc c'est le pouvoir des citoyens qui est en train de naître, et ça c'est quand même une révolution. Avant, le journaliste pouvait dire l'info c'est moi, et bien maintenant c'est plus le cas. Il y a des menaces qui pointent, forcément, parce que il y a des menaces pour la vie privée, pour la désinformation, tout ça est risqué, vous savez, censure, piratage, c'est pas la peine de s'étendre. De René lui dit ça pourra pas se régler, personne pourra maîtriser ça, il faudra absolument qu'il y ait une co-régulation citoyenne, c'est-à-dire c'est aux citoyens de faire le ménage dans les sites. Une conséquence aussi importante, c'est que tous les équilibres économiques et démocratiques sont à repenser. Les généralistes souffrent, même aujourd'hui TF1, ils sont pas contents, et forcément parce qu'ils sont concurrencés par la TNT, contre laquelle ils se sont posés longtemps, mais bon, voilà. La presse papier est en crise grave, en France comme ailleurs, et c'est rien de le dire. Alors aux États-Unis, c'est une catastrophe sans nom. Et les grandes manœuvres de la PQR ont débuté, c'est-à-dire il y a eu des rapprochements. 2004, rachat de la Soc Presse par Dassault. 2005, rachat des pôles lyonnais de l'ancien groupe Hersant par l'Est Républicain. 2006, je crois que c'est 2006, j'avais eu un petit doute. Ouest France prend la main sur les journaux de l'Ouest et tous les hebdos du territoire. Ouest France a racheté tous les hebdos de Loire-Atlantique jusqu'en Basse-Normandie, ceux qui l'avaient pas encore. Et en 2007, Sud-Ouest, La Dépêche du Midi et Le Midi Libre cherchent des alliances. On a assisté aux fiançailles en août 2007 à Biarritz, justement. Je ne sais pas si c'est vraiment conclu. Mais bon, il reste 3 grands groupes de presse quotidienne en France. Un à l'Ouest, autour de Ouest France. Un à l'Est, autour de l'Est Républicain et du Crédit Mutuel. Et un au Sud. Bon, la nouvelle société de l'information est mondiale, c'est ce qu'on disait. Donc, il faut organiser le local. Et je crois que c'est un peu l'enjeu de ces réunions et de votre mission. Si vous avez intégré cette réflexion sur les médias et le territoire, c'est bien pour voir comment, dans ce climat-là, Nantes peut tirer son épingle du jeu et comment un peu se repositionner. Je bois un coup. Ça va, vous m'entendez? Parce que j'ai un peu de mal. Donc, dans cette nouvelle société de l'information, il y a quand même quelques grands concepts structurants qui se dégagent. C'est vrai qu'on est perdu, on ne sait pas trop où qui bloque, comment ça marche, etc. Mais il y a quand même des concepts qui sont des nouveaux concepts pour la consommation de l'information. La simultanéité. Communication en parallèle de plusieurs sources, ça c'est les gamins qui sont très forts là-dessus, c'est-à-dire qu'on peut consulter plusieurs médias en même temps. Immédiateté, ça c'est devenu une exigence. On cherche une info, on va l'avoir tout de suite. Donc, bousculement des rythmes, gommage des temps. C'est pratique pour les utilisateurs, c'est quand même un casse-tête pour les éditeurs. Je vous raconte pas. Maraudage ou zapping, elle est moins de 20 ans sur la génération zapping. On va en parler tout à l'heure des jeunes, parce que tout ça, c'est un peu de leur faute quand même. Individualisation, donc c'est vrai que la multiplication des écrans conduit à une individualisation des pratiques. Quand on prend le cinéma, ben on est dans une salle de cinéma. Quand on prend la télévision, au tout début, il y avait toute la famille, mais il y avait même les voisins, parce qu'il n'y avait qu'une télé dans le village. Et après, l'ordinateur, c'est quand même une consommation plus personnelle. La console de jeu aussi, le téléphone portable apporte de la mobilité. Mais de plus en plus, les écrans deviennent personnels, alors qu'avant, ils étaient collectifs. C'est aussi, sur le plan sociologique, un truc bon. La gratuité, bon. Revendication de la gratuité d'accès au contenu, à l'info. Moi, même la presse payante a fait des journaux gratuits. Je pense que c'était un peu se tirer une balle dans le pied. Et c'est vrai que l'info est pas gratuite, elle a un coût, mais sauf que là, c'est vrai qu'Internet a entraîné un principe, une habitude de gratuité on va avoir du mal à revenir dessus. La mobilité, donc, c'est l'accès à l'info sur son parcours quotidien. C'est les nouveaux médias qui nous permettent ça. C'est peut-être intéressant. On regardera une petite vidéo tout à l'heure. Et le multimédia, c'est en soi une grande révolution parce que c'est la réconciliation de l'écrit et de l'oral qui étaient deux langages qui étaient opposés. Et donc rien qu'en ça, le multimédia, c'est quand même quelque chose d'intéressant et nouveau. Au 19e siècle, c'était quoi l'enjeu ? C'était de produire de l'info. Au 20e siècle, c'était de la diffuser largement. Et là, on a retourné la crêpe. L'enjeu aujourd'hui, c'est de la trouver. Donc, et de la rendre disponible. Ça inverse complètement le système d'information. Et les éditeurs, qui jusque-là pouvaient dire, voilà, j'ai mon journal de 24 pages, je choisis l'info qu'il faut pour mes clients et je leur offre ou je leur vends. Et bien c'est terminé parce que là il faut plutôt organiser des entrepôts de données bien classés, etc., pour que les gens viennent chercher l'information. Donc on passe du push au pull, en fait. Les gens viennent chercher un truc et ils veulent la trouver. Donc s'ils la trouvent pas chez vous, ils iront la chercher chez quelqu'un d'autre. Et il y a une dernière notion, je pense, sur ces grands concepts, oui. C'est la notion de territoire augmenté. Alors on va pas faire la soirée là-dessus, mais il faut considérer quand même les territoires numériques en plus des territoires physiques, et il faut imaginer que bientôt l'environnement va être cliquable, c'est-à-dire qu'avec le téléphone portable, on pourra cliquer, ça existe déjà à Paris, de quoi lancer ça il y a pas longtemps, sur une publicité, et on va se retrouver sur le téléphone portable, sur le site de cette publicité. Ils ont démarré avec Lancôme, je crois. Et donc l'ordinateur va se métamorphoser, se glisser dans les murs, ça peut être intéressant, mais c'est un gros défi. Alors là, la technologie va être appliquée directement au territoire. On parlera peut-être de Rennes et de son expérience Bluetooth tout à l'heure. En matière d'usage, les jeunes entraînent leurs aînés à grande vitesse. Alors ça, c'est un phénomène, ça a été étudié par tout le monde. Tout le monde confirme. Il y a une étude européenne faite par la CLEMI, qui doit être l'étude de la CLEMI, la structure qui s'occupe de l'observation de la consommation des médias pour l'éducation nationale. Donc les 12-18 gros utilisateurs d'Internet. Les usages sont essentiellement liés à la communication. C'est MSN, MySpace, SMS. Si vous avez des ados chez vous, vous comprenez certainement. Les infos qui intéressent les ados sont leurs infos et ils s'empressent de les partager avec leurs congénères. Et eux, ils pratiquent plusieurs médias à la fois, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire leurs devoirs en regardant la télé, en téléchargeant un truc sur leur téléphone, et enfin bon, ils sont incroyables. Alors contrairement à ce qu'on peut penser, ils s'intéressent quand même à l'info, ils vont consommer des infos très segmentées sur lesquelles... ils vont très loin en profondeur. Là, ils peuvent passer à côté des informations générales. C'est vrai qu'ils vont chercher l'info qu'ils cherchent et ils vont pas s'occuper du reste. La notion de programme les ennuie. Et plus ils pratiquent et plus ils sont méfiants sur les infos, mais je crois que c'est un peu le cas de tout le monde. 68% des 12-18 sont méfiants et ce chiffre est en progression. Il y a un rapport du Sénat qui est sorti récemment, là, début de l'année ou fin de l'année dernière. Je dis ça pour les parents. Il est inutile de se lamenter sur l'invasion des nouveaux médias, mais le Sénat propose de réfléchir dès maintenant, au contraire, aux meilleurs moyens d'encourager les pratiques numériques des jeunes en faisant en sorte qu'elles soient le plus profitable possible. Parce que je sais que ça crée des conflits parfois à la maison. Bon, sur les... Juste pour dire, les jeunes, là, j'ai sur un article, c'était sur... c'était dans Le Monde ou Le Journal du Dimanche. Je crois que c'était dans Le Journal du Dimanche, des jeunes qui parlaient des médias. Et pourquoi vous consommez que le net ? Parce que c'est le média dans lequel je me reconnais. Et pourquoi vous allez sur le net? Pour m'informer, me divertir, pour chatter, pour m'évader. Et le web est un passage obligé pour vivre avec son temps. Donc eux déjà, celui-là, pour le faire recoller à un canard, c'est pas gagné quoi. Et donc les deux gamins s'appellent Mohamed et Nathan là, ils sont sur Facebook, alors il y en a un qui s'expose et qui donne toutes ses infos, l'autre qui est un peu sur la retenue parce qu'il se méfie de Big Brother. Et pourquoi vous aimez le net? Parce que c'est ultra interactif, on peut y lire des articles, vérifier des infos, chercher ce qu'on ne comprend pas. Et puis c'est moins formaté que la télé ou la presse écrite, ajoute Nathan. Donc on est bien dans un mode de consommation de l'info là, qui est complètement différent de l'offre. Alors, la situation, donc on a vu, bon, la société de l'info est mondiale, ça vous saviez, il y a quelques concepts qui la structurent, il y a quelques dégâts qui vont avec, bon, et on va revenir sur Dante. Si il y a des questions, si je sais pas, non, je continue. Pour faire vite, j'identifie, mais ça c'est assez personnel, trois grands secteurs et plus. Trois grands éditeurs, on va dire, ou secteurs d'édition. Il y a le groupe Ouest France, qui est quand même très présent à Nantes, avec Ouest France, Presso, pour tous les hebdos de l'Atlantique. Maintenant, j'ai vérifié, j'étais pas sûr pour le Sevremen, ben si. Il a les sites Ma Ville, un site pour Ouest France, un site pour PO, il y a même un site Ouest France Multimédia, une radio Hit West, Nantes 7, qui est Angers 7 parce qu'elles sont un peu jumelles, des imprimeries bien sûr, Précom. Les supports de Précom, parce que Précom fait en plus des supports pour la pub, il y en a qui s'appelle Vivacité, qui est un truc urbain, bon. 20 minutes, ils sont propriétaires à moitié de 20 minutes, et 44 annonces. Je pense que j'ai oublié des trucs, mais c'est pas grave. Mais bon. Il y a la presse territoriale. La presse territoriale est devenue la première presse de France, il faut quand même savoir. Donc il y a Nantes Passion, Nantes au quotidien, les journaux de toutes les autres communes, parce que dans chaque commune il y en a un, Rosé et partout. Il y a le journal de Nantes Métropole qui existe depuis 2004 je crois, 2005. Les journaux du département et de la région. Autant de sites internet qu'il y a d'institutions. À Nantes en plus on a le système InfoNantes et les écrans lumineux vidéo, écran de ville, kiosque, borne, journaux lumineux. Ils ont des réseaux d'affichage. Ils ont des journaux de projets urbains à Nantes, mais dans d'autres villes, des journaux de quartier. Bon, c'est vrai que c'est un acteur puissant de l'information aussi sur le territoire. Juste une remarque, si la presse territoriale est si importante, c'est sans doute qu'ils éprouvent le besoin de publier des infos qu'ils ne trouvent pas dans la presse quotidienne, mais quand on se met à la place du journaliste le lundi matin, qui arrive à sa rédaction et qui voit tout ce qui est déjà publié, mais il doit se demander comment trouver la bonne info et quelle info il va trouver pour intéresser son lecteur. Alors le troisième grand secteur, on a le groupe Ouest France, on a le secteur des institutions, et là j'ai appelé ça un tiers secteur médiatique qui est plus ou moins soutenu et organisé, dans lequel on retrouve, il y a vraiment une effervescence, Pulsomatique, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un mensuel culture pour les 15-35, Citavoslup, c'est un mensuel aussi, mais c'est pour les 0-12 ans, personne n'est dans la cible là. Place Publique, un trimestriel, qui est chargé de diffuser de l'intelligence dans le débat public et qui le fait bien. Il y a API Publication, alors c'est une agence de presse, ils ont des correspondants, enfin ils font de la correspondance pour tous les journaux économiques parisiens, pour Stratégie aussi, pour Le Monde, pour Les Échos. Ils diffusent une lettre économique Bois-d'Arc et Pays de Loire. Un supplément quotidien électronique. DIP, une association audiovisuelle des étudiants de Nantes qui a pour mission de faire bouger la télé et faire bouger la cité. Ils sont accueillis par Télé Nantes dans le cadre d'une émission qui s'appelle Étudiants Paul Audan. Radio Nantes, dont je salue la présidente et la directrice générale que j'ai vue tout à l'heure. Radio Nantes, donc nouveau média local international, traiter l'actualité nantaise en la mettant en perspective avec le quotidien et la culture des autres pays européens. Et ils ont une deuxième mission, c'est former de futurs journalistes avec une ouverture européenne. C'est vrai que j'ai pu assister à des réunions, des rencontres avec un certain nombre de nationalités, de médias internationaux, d'écoles belges, etc. Et Radio Nantes a l'air d'inspirer un certain nombre d'autres acteurs ailleurs. Donc ça contribue au rayonnement de la ville. Europa, c'est un journal gratuit d'information, c'était des étudiants, mais ils ne doivent plus être étudiants maintenant, mais ils continuent. Information européenne, écrite par de jeunes citoyens européens, donc c'est intéressant. Il y a plein d'initiatives. Fragile, donc un magazine en ligne, c'est plutôt un magazine culturel, mais qui se travaille plutôt sur, dans le champ social. Il y a des radios, Jet FM, Sun FM, PIL, que vous connaissez, qui n'est pas une association, qui est une entreprise privée. C'est CMO, je crois que ça s'appelle. MCO. MCO qui fait PIL, M de loisirs, qui fait aussi Costar, bimestriel, culture et tendance, qui est à la fois à Rennes et à Nantes, qui est remarquable. Prune, la radio universitaire nantaise qu'on connaît, Télé Nantes, donc j'en parlerai pas. Et Terra Economica, peut-être que les gens ne connaissent pas Terra Economica, ce soir ils ont un raout, parce qu'ils lancent leur édition nationale papier, mais c'est un site internet, je peux vous dire que c'est des gars et des filles, mais pas beaucoup de filles. Dégourdi, c'est un journal sur l'économie et sur la préoccupation environnementale. Ils ont fait un partenariat avec Télé Nantes pour faire un petit film qui s'appelle Les Apprentis Écolos, qui a été offert par Arte quand même. Hop, je passe vite. Bon, et plus, parce que je pense qu'il y a ces trois grands secteurs-là, qui sont vraiment des locaux, quoi. Et puis, il y a d'autres éditeurs, il y a le Télégramme, qui a le journal des entreprises, il y a Métro, Direct Soir des gratuits, il y a l'État, France 3, Radio Bleu, j'ai oublié FIP, heureusement que Brigitte Bourg n'est pas là. La presse quotidienne est présente à Nantes aussi. Il y a des initiatives associatives et citoyennes, une web TV arrosée dont j'ai cru apercevoir l'un des fondateurs, Walter, là, qui fait partie de votre groupe. Il y a des blogs sur le Breil, il y a des blogs d'extrême gauche, Rusty s'en est un. Il y a toute une vitalité, des sites associatifs, bien sûr. Donc, en fait, il y a énormément d'éditeurs et d'informations. Mais il y a aussi les opérateurs internationaux, parce que quand on prend Facebook. Bon, je suis très loin, moi j'ai pas suivi. Réseaux sociaux, 22 millions de Français, alors je crois que c'est des chiffres de décembre 2008 qui ont été visités réseau social dans le mois. 12 millions pour Facebook, 904 000 pour Viadeo. Viadeo, c'est un réseau vraiment professionnel, hein, c'est plutôt des grades, patrons et tout. Ça fait combien à Nantes, ça? Viadeo, ils sont 12 000 à Rennes. Donc à Nantes, on doit être 20 000, enfin. Inscrit sur Viadeo, c'est quand même incroyable, hein. C'est-à-dire que quand tu vas aller chercher les patrons, hein, c'est pas la peine de faire des grandes campagnes, hein. Tu te mets sur Viadeo et tu es en contact avec eux. Alors, 19 millions de skyblogueurs en France, ça fait combien à Nantes? Je vais même pas oser calculer. Alors, ces 19 millions de profils, il n'y a pas forcément, parce qu'il y a des gamins qui ont plusieurs profils. Mais c'est quand même des scores que... Pardon? Des associations? Oui, oui. Ouais. Ça fait quand même du monde, hein. Et puis les sites de partage vidéo, les fournisseurs d'accès, c'est-à-dire il y a quand même une certaine concurrence et on pourrait s'inquiéter que demain les médias principaux soient les fournisseurs d'accès, les fournisseurs de contenu, les Google et ces machins-là, les moteurs de recherche. Donc faut bien quand même résister. Voilà, audience internet pour 35 millions de Français. Donc ça, c'est présent aussi à Nantes et fortement. Il faut imaginer aussi le temps passé, hein, parce que les gens restent toujours 3h28, je crois, ça a augmenté encore cette année devant la télévision. Ils passent 10 heures, on l'a vu tout à l'heure, devant Internet. Après les réseaux sociaux, etc., tu te demandes s'il te reste du temps pour lire un journal, ça c'est vrai. Hein. Donc, il y a une certaine effervescence, un certain bouillonnement, il y a plein d'initiatives qui ont été créées à Nantes, et ça, c'est très bien, mais il y a une conjoncture quand même assez morose. Le quotidien Ouest-France était annoncé en perte cette année, pour la première fois de son histoire, je vous dis pas la panique. En fait, ils ont 2 millions d'euros de bénéfices. Ouest-France, c'est 365 millions d'euros. Ouest-France seul, hein, le journal. De chiffre d'affaires, 2 millions d'euros de bénéfices. Sur ces 2 millions d'euros, il y a quand même 8 millions d'euros de recettes qui viennent de Ouest France Multimédia, donc une filiale. Et Ouest France, premier quotidien de France. Alors les autres, ils sont dans un état... bon. La presse connaît une crise profonde et mondiale. Les finances des collectivités locales s'amenuisent proportionnellement aux désengagements de l'État et puis aussi peut-être avec la crise, hein. La crise financière, ce qui est sûr, c'est qu'elle va réduire les recettes publicitaires des médias, et c'est déjà commencé. Les chiffres sont catastrophiques pour janvier, là. Certaines chaînes locales de télévision en France courent à la faillite. Et le sort de l'audiovisuel public est incertain, donc en fait, tout le monde est menacé. C'est vrai que le tableau n'est pas terrible. Si on prend Nantes, j'ai une petite note en bas là. M6 a décroché en 2006. Il y avait le petit journal de M6, 6 minutes à 20h40. C'est quand même 200 000 téléspectateurs qui regardaient ce journal là. Et presque autant pour Estuaire. Alors Estuaire a été victime de l'histoire de la publicité, parce que Estuaire c'était à 18h55, maintenant je crois que c'est à 18h25, c'est beaucoup plus tôt. Il était rediffusé avant 20h, mais maintenant avant 20h sur France Télévisions, il passe plus les locales parce qu'il passe la pub. Donc on a quand même perdu en info télévisuelle, à la fois M6 et Estuaire. West Info, qui est la société de production qui travaille pour TF1, LCI, qui travaille pour TV Braise, a réduit ses effectifs de 31 à 18 personnes, parce que déjà le journal de TV Braise fait plus de breton, fait plus d'infos, et passe des séries américaines. Donc, et ça, tout ça, ça entraîne une baisse de la capacité de production en images animées. Quand on voit que les gens communiquent de plus en plus en multimédia, etc., c'est pas forcément intéressant pour le territoire. Et Nantes 7 a accumulé 5 millions d'euros de pertes en 4 ans, ce qui est même pas, enfin, en moins de 4 ans, ce qui est quand même dramatique aussi. Donc on n'est pas... Il y a une effervescence d'un côté, mais on n'est pas au mieux. Pourquoi il y a une telle crise de la presse quotidienne? Alors, il y a l'érosion des ventes, tout ça, depuis 45... Ça plonge, on sait, enfin, ça plongeait doucement, mais on est. Je crois qu'il y avait une diffusion de 7 millions d'exemplaires de journaux en 45, et aujourd'hui, on est à 2 millions de moins, avec une population qui a dû doubler. Il y a une baisse des parts d'audience. Pourquoi j'ai mis ça? Non. Non, c'est pas les. C'est la baisse des petites annonces, c'est pas du tout les parts d'audience. Il y a une forte baisse des petites annonces qui faisait partie des recettes, et il y a l'évasion de la pub qui change tranquillement de monture, c'est-à-dire qu'avant le meilleur vecteur de la pub c'était l'info, aujourd'hui c'est le divertissement. Temps de cerveau disponible. Donc voilà. Et les principales causes du déclin, ben, on sait que il y a un modèle économique en fin de cycle qui a provoqué ces rencontres, ces assises de la presse quotidienne, mais qui succédait à des rencontres du Sénat qui avaient eu lieu l'année d'avant, et puis ça fait quand même 10 ans qu'ils disent que c'est grave, et puis voilà. Un prix de vente trop élevé, certainement, on est plus cher que la presse dans d'autres pays. Et un système de distribution complètement archaïque, qui était d'ailleurs l'objet des discussions. Dans ces assises de la presse que vous avez peut-être suivi. Alors, il y en a même, j'ai le bouquin là, qui annonce la fin des journaux. Ça, c'était, il y avait un article l'année dernière à la même époque dans la revue Débat de Gallimard. Là, c'est aux éditions Débat, toujours de Gallimard, mais la revue Débat, qui est une revue, plutôt sérieuse, qui avait fait du bruit, mais ils annonçaient la fin des journaux dans 5 ans. Et là, on lit le bouquin et on a du mal à. On a trouvé la faille, en fait, il y a des arguments assez solides. Bon, alors, on a quand même de la chance à Nantes, parce qu'on a le groupe Ouest France qui est encore solide. J'ai cru comprendre qu'ils ont leurs nouvelles éditions. Marchaient bien, c'est-à-dire qu'ils ont découpé un peu le territoire. Ils ont réduit un peu Nantes. Ils ont augmenté les infos sur les territoires de l'aire urbaine, mais qui sont pas strictement nantais. Et ils ont donné à ces gens-là de l'info qui était un peu nantaise, mais surtout de chez eux. Et ça a l'air de bien marcher. Presse Océan est moribond. La relance... Alors, Presse Océan est moribond, oui. J'aime beaucoup Presse Océan. Je trouve que Dominique Luneau a fait un travail remarquable pour relancer ce titre. En plus, là, on a un vrai choix entre un journal classique en format et un journal tabloïd. Ça peut être intéressant pour capter une nouvelle clientèle. Mais ils l'ont lancé avec un prix qui est plus cher que celui de West France. Je trouve que c'est pas chic de la part du groupe. L'enjeu, c'est l'info de proximité, oui. Parce que pourquoi j'insiste tant sur la presse quotidienne, c'est que si on n'a plus de presse quotidienne, et ça peut arriver... on n'est pas bien parce que Les journalistes des quotidiens et les localiers sont les seuls soutiens de l'information. Qu'est-ce que fait un journaliste de M6, il n'y en a plus, mais, ou de France Bleu ou de France 3, quand il arrive le matin dans sa rédaction, il lit le journal. C'est pas lui qui va collecter la petite info de proximité. Donc tous les journalistes, les correspondants de la presse nationale, qu'est-ce qu'ils font le matin? Ils lisent Presse Ouest France. C'est le seul gisement d'infos de proximité. Si la presse quotidienne périclite, eh ben, on aura un déficit et l'info de proximité va se paupériser. Et on risque d'avoir une info interchangeable d'un territoire à l'autre, un peu virtuelle à mon sens, quoi, qui ne sera pas au plus près des gens. D'où l'intérêt d'agir aujourd'hui. Je suis vraiment très heureux que vous preniez le taureau un pour le corps, par les cornes. Oui, bah, y a des combats à mener. Comment produire l'info? Je suis perdu dans mes pages. Dans les années qui viennent, avec quel schéma de production? Avec quels acteurs? Est-ce que ce seront des professionnels? Est-ce que ce seront des professionnels amateurs? Est-ce que ce seront complètement des amateurs? Sous quel format? Texte, image, vidéo, récit multimédia? Pierre m'a présenté comme responsable d'une agence de communication. C'est vrai que cette agence de communication WMX s'intéresse plus à la communication des territoires et des acteurs publics, Télénantes étant faisant partie de ma vie associative, mais je me mets à la place des directeurs de la com. C'est un comment dire, ils ont le vertige, c'est un abîme. Ils savent qu'il y a plein de choses à faire, mais ils savent pas ce qu'ils peuvent faire, parce que ils n'auront pas de budget supplémentaire, ils n'auront pas d'équipe supplémentaire, et donc il faut qu'ils choisissent un truc ou deux en essayant de choisir le bon pour pas se planter. Et là, un truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi à Ouest France, sur les sites, ils jouent pas le multimédia avec la vidéo. Presso le fait presque plus qu'eux, alors qu'ils ont tout. Ils ont la télé, ils ont la radio, ils ont... Je comprends pas, mais enfin, c'est vrai qu'il y a un blocage aussi culturel, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de l'écrit, et pour un éditeur, passer de l'écrit au multimédia, à la radio, etc., c'est très compliqué. Donc, on va prendre de retard. Et une fois qu'on produit de l'info, comment on organise la mise en forme de l'info et la distribution? Parce que bon, on est toujours dans le circuit de l'information, collecte, mise en forme, distribution. Mais là, ça c'est compliqué, généreusement. Donc quel réseau de distribution, sur quelle forme, papier, écran, wiki, site, forum, pour quel public, avec quel système de droit appliqué, droit d'auteur, droit à la presse, c'est pas si simple que ça, et avec quelle légitimité aussi, qui va communiquer avec crédit, c'est pas si simple. Donc, dans les temps ça marche, je vais vous dire. Après avoir fait le constat que la société de l'information était mondiale et après avoir considéré qu'à Nantes on avait de la chance parce qu'on avait encore le groupe Ouest France, qu'on avait une certaine effervescence, mais que malgré tout il y avait une crise, il faut voir comment on peut s'en sortir demain. Donc je pense que l'avenir est au collectif, au partage d'informations et peut-être à l'économie sociale et solidaire. Donc... Effervescence à Nantes, bon, je répète, mais deux journaux quotidiens, un groupe de presse puissant, déjà deux journaux quotidiens, on est le seul territoire à en avoir deux. Dans les autres, c'est terminé, il n'y en a plus qu'un, il y en a même qu'on n'en a pas. Un tiers secteur dynamique, un système d'information publique très présent, des collectivités que je rencontre parfois dans le cadre de Télé-Nantes qui me semblent très soucieuses de garantir à Nantes un pluralisme et une qualité de l'info, ça on ne peut pas le reprocher, des acteurs du territoire qui ont des choses à dire, à montrer, à partager, enfin on en a plein. On a des habitants qui souhaitent parfois prendre la parole, donc faut leur donner. Hein. Et on a une vie associative aussi flamboyante, c'est peut-être un peu fort, mais et qui manque d'exposition de vitrine. C'est-à-dire que la réalité, c'est vrai que c'est pas dans les journaux municipaux qu'on voit trop la vie associative. C'est pas non plus dans la presse quotidienne parce que il y en a trop, quoi. Et le dernier point, et c'est pas innocent, et on a des start-up et des labos performants, c'est-à-dire qu'en plus à Nantes, on a eu, grâce à l'arrivée de la SNCF, de la Poste, enfin du service décentralisé de l'État, on a eu l'arrivée de SS2i Performante, mais en plus, il y a la génération d'un petit noyau du Free qui monte des startups à Nantes, qui s'appuie sur des labos de recherche, et apparemment, il y a une masse critique à Nantes qui est supérieure à celle des autres territoires en France. Donc ça, je pense que c'est une chance, et je vous invite... même à intégrer dans votre réflexion là des chercheurs de Nantes, parce que ils sont en plus engagés dans le pôle image et réseau, qui est plutôt rennais, mais dans Nantes, une partie par Temple. Ils sont brillants et c'est leur boulot de faire circuler des informations, des images, des vidéos, etc., n'importe où, sur n'importe quel territoire. Donc ce serait peut-être intéressant d'en inviter aussi des chercheurs. Un territoire, c'est le moment d'inventer, et ça c'est une intuition qui se confirme. Hein. Un territoire dans lequel l'info circule bien et est facilement accessible est un territoire qui a de l'avenir. Je crois fortement à ça. Si on veut une info qui circule bien, facilement accessible, je pense qu'il faut aussi de la richesse de qualité, il faut de la complémentarité. Il faut travailler sur le bi et le trimédia. Il faut de la bimédia, vous voyez, donc c'est presse et vidéo, trimédia, ça peut être presse, télé, internet. Je pense qu'il faut des acteurs comme on les a aujourd'hui, qui ont une certaine spécificité, c'est-à-dire du caractère, qui ont des spécialités, qui ont une identité forte. Il faut de la variété, parce qu'il y a des gens qui consomment de l'info, de l'actu, il y en a qui veulent du débat, il y en a qui veulent du recul, il y en a qui veulent du magazine, de la culture, il faut qu'on ait toutes ces richesses-là. Il en faut pour tout le monde, pour tous les âges, pour toutes les cultures, dans tous les langages, dans tous les formats, pour tous les handicaps. Maintenant, la technique permet de faire tout ça, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à le servir. Et il en faut partout, quand les gens en ont besoin, là où ils se trouvent. Parce que le principe d'immédiateté dont on parlait tout à l'heure, de mobilité, fait que les gens maintenant sont habitués à avoir l'info qu'ils cherchent au moment où ils en ont besoin, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Dans cette histoire-là, les collectivités auront un rôle croissant à jouer. Je pense que le modèle économique de la presse quotidienne étant un peu déclinant, je vois pas qui d'autre que le service public peut continuer à œuvrer et prendre une responsabilité supérieure pour entretenir une info de proximité. Mais je pense que ça ne suffira pas non plus, il faudra mettre tout le monde dans le jeu. Alors quand je dis les collectivités, c'est pas elles de tout faire, hein, mais il faut peut-être soutenir les acteurs indépendants ou le tiers secteur dont on parlait tout à l'heure. Et il faut mettre tout le monde dans le jeu, inviter d'autres producteurs d'infos à entrer dans la danse. Le principe du Web 2. Il tend à la transversalité et pas à une organisation pyramidale. En plus, il y a quand même un truc qui est intéressant à noter, c'est que le Web 2, le libre, les wikis, les blogs, ils sont nés après la bulle Internet de 2000. C'est-à-dire qu'il y avait plein de chercheurs, jeunes chercheurs qui étaient embauchés dans des boîtes, et leurs boîtes ont dit « Ben non, finalement, là, la bulle a explosé, vous êtes virés ». Mais eux, ils ont continué. Et si on a un fort développement du web d'aujourd'hui, qui est né subversif, je pense que c'est lié à l'éclatement de la bulle de 2000. Des producteurs, des éditeurs et des diffuseurs peuvent être différents. Donc, si l'organisation pyramidale, c'est je suis l'éditeur et je collecte l'information, je la transforme chez moi, je l'imprime et je la distribue avec mes coursiers, là, on peut imaginer que si on reprend les techniques du Web 2, puis la tendance générale, on peut distinguer producteur, éditeur, diffuseur. Donc, il y a un concept de News Factory qui peut exister. Alors, News Factory, on peut avoir une News Factory comme Terra Economica, c'est une News Factory. Elle produit des informations économiques sur le développement durable. Elle a ses propres médias, mais elle peut les vendre aussi à Arte, ou elle peut les vendre à Télé-Nantes, ou elle peut les vendre à d'autres. On peut imaginer une News Factory dans le quartier de Bellevue à Nantes. Des gens qui disent, moi, je vais m'occuper de l'info sur Bellevue. Et je vais faire une petite boutique multimédia, et je vendrai mes infos à ceux qui voudront bien me l'acheter. Donc Presso, West France, d'autres éditeurs, j'en sais rien. Mais enfin, c'est un modèle comme ça. Il faut imaginer des trucs malins. Il faut exposer ses programmes sur plusieurs circuits de distribution. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne partagent pas plus leurs informations d'un média à l'autre. On est dans un système où sur le site internet c'est complètement nucléarisé. Moi je serais favorable, en plus Télé-Nantes a développé un site web 2 où toutes les émissions et toutes les vidéos peuvent être téléchargées. Il y a un flux RSS. Si on veut avoir sur son blog les émissions de Télé-Nantes, c'est facile. Pourquoi les éditeurs ne se l'approprient pas? Pourquoi West France, qui a tous les moyens, prend pas des trucs de Nantes 7 ou des infos de Nantes 7 pour mettre sur son site? Je comprends pas. Il y a des programmes de qualité. Ces programmes de qualité, on peut les distribuer de différentes manières aujourd'hui, les présenter à la population de différentes manières. Pourquoi on le fait pas? Et tout ça, oui, ben pour répondre à la demande d'infos, parce que les circuits d'information ont changé, parce que les exigences des gens ont changé, etc. Et qu'il faut du choix, de l'immédiateté, qu'il faut que les contenus bougent, parce qu'autrement, si le site internet ne bouge pas, on n'y va plus. Ben, c'est pas un seul éditeur qu'il faut le faire, il faut associer plusieurs éditeurs et échanger des contenus. Des partenariats à mettre en place, si on prend à l'interne pour une mairie, un service qu'on ne peut pas tout faire. Donc il peut peut-être mettre en place des correspondants dans les services ou dans les quartiers. Ça c'est un peu une révolution culturelle, je pense vite. Ça peut être avec d'autres acteurs du territoire. Pourquoi des partenaires institutionnels publics ou parapublics, le château des Ducs, il a numérisé tous ces données. Il faut aller sur l'ordinateur du centre de ressources du château des Ducs pour consulter ça, non ? Ils pourraient faire une proposition et tous les journaux pourraient enrichir leur contenu parfois avec un travail, enfin avec des images d'archives ou avec des ressources qui viennent du château des Ducs. Bon, les musées, les SEM, l'université, j'ai dû avoir des représentants de l'université aussi, il y a des informations scientifiques. L'université, depuis quelques années, a envie de s'ouvrir sur le territoire. Donc, il y a des données qui sont disponibles dans l'université qui pourraient être exposées aussi. Mais là aussi, c'est une question de culture, on n'est pas prêt à le faire. Et puis, il peut y avoir des échanges aussi avec les médias locaux, en commençant par les médias associatifs. Et là, on va retrouver les News Factory, ça peut être une ressource aussi pour ces petits médias, de vendre leurs infos. On va peut-être parler tout à l'heure des agendas aussi, un truc qui m'énerve. Donc ça suppose que les professionnels, les journalistes, deviennent des managers d'information. Moi je défends les journalistes, hein. Je pense qu'on a absolument besoin d'eux pour gérer cette crise-là. Mais faut aussi qu'ils puissent revenir sur certains blocages. Comme disait Dominique Luneau, qui présentait son journal au Club de la Presse l'autre jour, la chance c'est le journaliste, mais le problème c'est le journaliste aussi. Donc c'est des managers d'information, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'aller à ta conférence de presse ou aller chercher ton info tout seul quand tu es journaliste, tu peux aussi solliciter d'autres gens pour dire voilà, j'ai un sujet sur l'éléphant, est-ce que les archives départementales peuvent pas me donner des trucs sur les nefs et sur le mouvement ouvrier, est-ce que je peux pas avec le musée des Beaux-Arts ou le musée Jules Verne trouver des choses d'inspiration vernienne, parce que cet éléphant il est forcément inspiré et par le mouvement surréaliste et par l'univers vernien et par aussi les chantiers, enfin bon, il y a moyen de recomposer quelque chose qui enrichirait l'information en partageant l'info et en collaborant les uns les autres. Et c'est comme ça qu'on peut bâtir aussi l'entrepôt de données dont je vous parlais tout à l'heure. Et bien sûr, alors là il faut une ligne éditoriale en béton, puis il est parfait l'entrepôt, mais si on peut mettre tous ces outils-là à disposition, toutes ces informations-là à disposition, quel que soit leur format, que ce soit des images d'œuvres du musée, que ce soit des vidéos de Télénor de 97, que ce soit des textes, que ce soit des rapports de l'université ou n'importe quoi, si on peut les retrouver, il faut les organiser bien sûr, mais si on peut retrouver ça facilement, je pense qu'on gagne en info sur le territoire.